Il est 21h à Ouagadougou et à Dakar, 23h à Tripoli. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, le bilan s'alourdit en Libye suite aux violents affrontements d'hier. Nous serons au Burkina Faso pour notre dossier.
Cette main que nous tendons, si cette main est acceptée, c'est la sortie de crise. Et nous disons la conquête personnelle du pouvoir, les luttes partisanes, tout ça c'est bien beau. Mais dans un environnement sous-régional et mondial tourmenté, il faut faire très attention, ne pas lâcher la proie pour l'ombre.
Suite de la crise politique au Burkina Faso, les partisans de Blaise Compaoré disent tendre la main à l'opposition. Reportage de Zoumana Wonogo à suivre. Au Sénégal, la zone maraîchère dite de Nice est sur le point de disparaître. Rubrique santé, ouverture de la 20e conférence sur le sida à Melbourne. Et enfin, le musicien nigérian Dias sera dans notre page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. La commission électorale en Libye a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs des élections législatives du 25 juin qui, selon l'AFP, donnent une nette avance à la mouvance civile devant les islamistes. D'après des élus contactés par l'AFP, le courant civil et libéral aurait remporté plus de sièges que les islamistes. Des analystes libyens et diplomates font aussi état d'une défaite des islamistes qui dominaient le Conseil général national. La nouvelle Assemblée doit remplacer ce Parlement provisoire accusé d'avoir aggravé une situation déjà chaotique en Libye en raison d'une lutte d'influence entre les courants libéral et islamiste. Au Soudan du Sud, les forces gouvernementales et rebelles continuent de s'affronter à Nassir, une petite ville dans le nord-est du pays. La mission de l'ONU dit ne pas savoir si la localité a changé de main. Ces derniers combats interviennent au lendemain de l'offensive lancée par les rebelles sur leur ancien QG. De nouveaux affrontements entre soldats ukrainiens et rebelles séparatistes ont fait au moins 3 morts près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes gouvernementales tentent de reprendre la ville après avoir reconquis plusieurs villages dans la zone. Selon un porte-parole de l'armée nationale, l'aéroport est sous contrôle gouvernemental. Les deux camps ont ignoré l'appel à un cessez-le-feu après la tragédie de l'avion de la ligne malaisien où 298 personnes ont trouvé la mort. Et le président Barack Obama a demandé à Moscou d'user de son influence auprès des rebelles dans l'est de l'Ukraine pour permettre aux enquêteurs internationaux d'accéder librement au site du crash de l'avion malaisien abattu la semaine dernière par un missile. La conférence internationale sur le sida, à laquelle beaucoup de victimes du vol de Malaysia Airlines allaient prendre part, se déroule à Melbourne, en Australie. Environ 12 000 délégués, dont des chercheurs, des activistes et des personnes vivant avec le VIH-SIDA, se rencontreront jusqu'à vendredi pour envisager les meilleures réponses à la maladie et la façon d'accélérer les méthodes de prévention et de traitement.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au 14e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, au moins 530 Palestiniens ont été tués. Côté israélien, 27 soldats sont morts depuis le début de l'offensive. Nicolas Pineau.
Oui, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le secrétaire d'État américain, John Kerry, se rendent au Caire. La capitale égyptienne est le théâtre d'intenses tractations pour parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Barack Obama a déclaré que la préoccupation majeure était la cessation des hostilités pour empêcher la mort de civils innocents des deux côtés. C'est le même son de cloche pour François Hollande, qui a dit que tout doit être fait pour mettre un arrêt immédiat à la souffrance des populations civiles à Gaza. Mais ce lundi, l'aviation israélienne a bombardé plus de 50 cibles, dont 2 fabriques d'armes et 6 sites souterrains dans la bande de Gaza. De son côté, le Hamas a tiré plus de 50 roquettes et tente d'infiltrer ses combattants en Israël. 10 d'entre eux ont été tués aujourd'hui. Plus de 530 Palestiniens, en majorité des civils, sont morts depuis le début de l'opération israélienne.
Un ami du suspect du double attentat de Boston qui a fait 3 morts et plus de 260 blessés en avril 2013 a été reconnu coupable d'obstruction à la justice par un tribunal fédéral aujourd'hui. Azamat Stazakyakov, âgé de 20 ans, a été reconnu coupable par le jury d'avoir voulu faire disparaître avec 2 autres amis un sac à dos appartenant à l'un des deux suspects, Joka Sarnev, dans sa chambre d'un dortoir universitaire de la banlieue de Boston. Jetée à la poubelle, cette pièce à conviction importante n'avait été retrouvée que 2 jours plus tard par la police. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant à la suite de Sahel Plus.
« Sahel Plus sur la Voie de l'Amérique. Nous ouvrons sur la Libye. Les violents combats pour le contrôle de l'aéroport international de Tripoli ont fait près de 50 morts. Les affrontements entre les islamistes et les milices Zintan s'étendent désormais sur les zones résidentielles. Jean-Roger Bion.
Ce sont les pires violences en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Des milliers de personnes ont fui leur maison alors que les groupes armés continuent d'échanger des tirs de mitrailleuses, de canons et de roquettes. Certains habitants sont pris au piège dans leur maison. Les Nations Unies ont retiré leur personnel de Libye pour des raisons de sécurité. Les vols internationaux à l'aéroport de Tripoli sont interrompus depuis lundi dernier et certains experts de l'aviation pensent que l'aéroport sera fermé pendant des mois en raison de l'ampleur des dégâts. Les milices impliquées dans le conflit de l'aéroport sont respectivement les alliés des factions politiques libérales et islamistes en rivalité pour le contrôle du Parlement libyen, le Congrès national. Les résultats des élections législatives devaient être annoncés dimanche, mais ont été reportés.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 99 FM, notre fréquence à Abidjan. Au Burkina Faso, le parti de Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès et ses alliés du Front républicain, qui regroupe une cinquantaine de partis, ont entamé une tournée dénommée « Caravane de la paix et de la cohésion ». Le lancement de cette caravane a donné le ton de leurs nouvelles options, à savoir tendre la main à l'opposition et à la société civile pour un dialogue de sortie de crise entre pro-référendum et anti-référendum. Zoumana Wanogo est notre correspondant à Ouagadougou.
C'est depuis Gawa, au sud-ouest du Burkina, que le parti de Blaise Compaoré et ses alliés, regroupés au sein du Front républicain, ont lancé ce qui est désormais dénommé « Appel de Gawa ». Écoutons son contenu avec Michel Ouédraogo, le porte-parole.
« Appel de Gawa ». Nous, membres du Front républicain, réitérons notre appel à la classe politique et aux forces vives au-delà des différences, à s'associer au Front républicain pour une relance du dialogue démocratique au Burkina Faso, à privilégier l'intérêt national pour la promotion d'actions de tolérance et d'acceptation mutuelle, à consolider les valeurs et les acquis républicains.
Dans quel état d'esprit le Front républicain a-t-il lancé cet appel au dialogue ? Maître Herman Yamego, le coprésident, explique.
Cette main que nous tendons, si cette main est acceptée, c'est la sortie de crise, c'est la mise qui est sauvée. Et nous disons la conquête personnelle du pouvoir, les luttes partisanes, tout ça c'est bien beau. Mais dans un environnement sous-régional et mondial tourmenté, il faut faire très attention, ne pas lâcher la proie pour l'ombre.
Au parti présidentiel, le CDP, l'on se dit prêt au dialogue et à la concertation. On écoute Assimi Kouanda, le secrétaire exécutif du CDP.
Pour ce Burkina que nous aimons tous, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut se concerter. Si on se concerte, on trouvera des solutions. Si les solutions n'arrivent pas par cette concertation, nous avons la Constitution qui nous donne également d'autres voies pour départager les points de vue. Nous sommes disposés et nous sommes prêts. Maintenant, nous n'obligeons pas les uns et les autres à répondre puisque nous avons un juge suprême qui est le peuple.
Si les politiques s'accordent à sauvegarder la paix, quelle attitude les jeunes, souvent utilisés contre cette même paix, doivent-ils avoir ? Suivons Romaric Yen et Basile Emma.
Nous les jeunes, là, pour préserver la paix, on doit se parler. Pour ne pas sortir dans la rue, manifester, casser les coiffes des choses que nos parents ont construites pour nous. Je suis prêt à avoir ce comportement pour que la paix règne dans ce pays.
J'aime la paix. Pour que la paix règne, il faut que nous les jeunes, nous respectons les lois. On doit conserver ça. Faire ce qu'on nous demande, c'est tout. Travailler pour qu'il y ait la paix.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, la Voix de l'Amérique.
Ouagadougou, vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Direction le Sénégal pour notre dossier, un dossier agriculture aujourd'hui. À Dakar, la zone des Niais est en danger. Cette zone qui privilégie la culture maraîchère est sur le point de disparaître du fait du morcellement des terrains cultivables, de plus en plus utilisés à des fins d'habitation. Les autorités en charge de ce secteur sont conscientes que la disparition des Niais serait catastrophique, car 80% des produits frais consommés à Dakar viennent des Niais. Plus de détails avec Diena Bassedouba.
Dakar. La zone des Niaï de Dakar est en danger. Cette bande étroite d'une longueur de 180 km produit 80% de la production horticole sénégalaise. Les Niaï assurent l'approvisionnement de l'agglomération dakaroise en produits frais. Bara Cissé de la coopérative agricole Samamomel à Bambilor.
Il s'agit, n'est-ce pas, d'un domaine de 25 km² dont les trois quarts sont exploités. Nous avons dénombré 1042 vergers et fermes avicoles. Et à l'intérieur, il y a des milliers d'emplois. Les femmes s'activent autour, n'est-ce pas, de ce domaine et nos employés viennent, n'est-ce pas, de toutes les régions du Sénégal. Donc, c'est un pôle d'excellence agricole. Il est rare, je crois, de trouver dans le pays 10 km² mis en valeur comme ce domaine-là.
La principale difficulté des Niaï, c'est le morcellement continu et ravageur des terres. Une véritable menace à l'activité agricole au niveau des Niaï. Massaïr Gueye de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole.
Et le domaine sur lequel nous sommes appartient à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Mais comme vous le voyez, il y a une superficie d'environ 75 hectares ici qui a été lotissée en habitation à notre insu. Ce qui fait qu'il y a un empiètement très grave au niveau de notre station de recherche qui repose sur un titre foncier. Nous avons un programme de mise en place d'une grande collection nationale fruitière, également de parcelles de démonstration horticole, maraîchage, arboriculture, fruitière, floriculture, mais c'est sur cette étendue qu'on devra le faire, mais on ne peut plus le faire.
La zone des Niaï menacée, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural tire la sonnette d'alarme. La disparition des Niaï serait catastrophique pour Dakar, selon Papa Abdoulaye Seck.
La disparition de la zone des Niaï va avoir incontestablement comme conséquence directe une hausse vertigineuse des prix des fruits et légumes, va avoir comme conséquence aussi une dégradation de l'état nutritionnel des populations, l'effondrement des revenus provenant de l'horticulture. C'est pourquoi le président de la République a instruit à l'ensemble des services administratifs de tout mettre en œuvre afin que nous préservions la zone des Niaï. Ce que j'ai constaté, c'est une urbanisation sauvage et galopante qui n'est pas de nature à favoriser la matérialisation des objectifs que le gouvernement du Sénégal fixe au secteur horticole.
Le gouvernement sénégalais s'est fixé comme objectif une autosuffisance en oignons à l'horizon 2016 avec une production de 350 000 tonnes et la relance des exportations horticoles qui passerait de 60 000 tonnes actuellement à 150 000 tonnes. Un objectif qui ne sera pas atteint sans une zone des Niaï protégée. Diana Bassey Douba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Rubrique santé, la 20e conférence internationale sur le sida s'est ouverte hier à Melbourne en Australie avec un hommage aux disparus victimes du crash de l'avion de la Malaysian Airlines en Ukraine la semaine dernière. Cette 20e conférence porte sur le droit des populations les plus touchées par l'épidémie. Le projet de déclaration de Melbourne évoque ainsi le fait que si 35 millions de personnes sont encore porteuses du virus, plus de la moitié d'entre elles ne le savent pas. La conférence veut identifier les moyens d'atteindre ces populations, souvent les plus à risque et aussi souvent les plus discriminées. Le docteur Roger Salan Tunga du bureau exécutif de l'ONU SIDA.
Il faut qu'on fasse vraiment un effort dans les 5 années qui viennent pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent avoir accès à la connaissance de leur séropositivité ou non. Parce que c'est vraiment le premier pas vers la recherche du traitement et on sait maintenant que le traitement contribue à la prévention de nouvelles infections.
Le plus grand nombre de séropositifs et de sidéens se trouvent toujours en Afrique subsaharienne où ils sont quelque 25 millions. Alors de ce côté-là, qu'est-ce que vous attendez de la conférence de Melbourne ?
D'abord, vous savez que la transmission du virus de la mère à l'enfant, c'est encore plus de 200 000 par an en Afrique au sud du Sahara, alors qu'elle a pratiquement disparu dans les autres continents. Donc il y a des efforts énormes à faire de ce côté-là. Tout ce qui est traitement pédiatrique, pour que les formules de traitement pour les enfants soient de plus en plus disponibles. Et puis aussi l'accès à la connaissance de si on est infecté ou pas demande encore beaucoup d'efforts en Afrique subsaharienne. Et puis vous savez aussi que la plupart des personnes qui sont sous traitement en Afrique au sud du Sahara sont sous-traitement de première et deuxième génération pour lesquels on a obtenu des médicaments génériques. Donc, il faudrait qu'on travaille maintenant pour que les nouvelles générations de médicaments puissent être disponibles aussi en Afrique au sud du Sahara. Parce que les gens, quand ils sont mis sous traitement, c'est pour la vie. Et puis, on ne peut pas rester toute la vie sur des traitements de première génération ou de deuxième génération.
La tuberculose continue d'être la principale cause de décès parmi les séropositifs et sidéens. Est-ce que de ce côté-là, on a des espoirs?
On a des traitements qui sont disponibles depuis plusieurs années déjà. Donc, nous, on essaye de travailler très, très étroitement avec le programme Halte à la tuberculose. On essaye de faire en sorte que tous les programmes dans les pays qui s'adressent au VIH-SIDA ne le fassent pas en isolation, qu'ils tiennent en compte aussi ce qui se passe au niveau des hépatites virales et essentiellement aussi au niveau de la tuberculose.
Le docteur Ajay Salantouga de l'ONU-SIDA.
Diassé dans notre page culture aujourd'hui. Diassibo Tchombiano est un artiste multicarte, peintre, sculpteur et joaillier. C'est aussi un musicien prolifique qui est aussi à l'aise en musique traditionnelle qu'en reggae. Très engagé, il porte un regard sans condescendance sur les actualités africaines.
Je ne chante pas l'actualité, je ne fais pas du journalisme. Mais je chante plutôt, je rapproche le passé et notre présent en fait. Donc je chante plutôt ce qui a chanté aussi nos peuples. Et je parle plutôt de la bravoure des gens qui sont passés, qui ont construit cette Afrique-là dans laquelle on vit. Forcément, ça veut dire que ça va toucher l'actualité. Ça fait vraiment mal au cœur que les anciens colons reviennent. Parce que le truc, c'est que tant qu'il y aura des bases, on ne peut pas parler d'Afrique libre. Donc c'est, moi, je trouve que c'est assez confus. Que les Africains, les jeunes Africains, ils doivent se réveiller. C'est le moment en fait de serrer les rangs. Pour parler de mes frères Touareg aussi, c'est pas le moment de parler de division. Je crois que c'est le moment où on devait s'unir encore plus pour reconstruire cette Afrique-là qui est fatiguée. Moi, je crois juste au discours d'Haïlé Selassie, son discours qu'il a fait aux Nations Unies. Et je pense que les Africains, les intellectuels surtout, doivent revoir en fait l'état civil, parce qu'il y a le problème de la région aussi, il y a un problème d'état civil. Parce que des populations, il y a des populations qui sont divisées entre des pays et qui font des va-et-vient. Si vous regardez par exemple dans les populations Touareg, il y en a beaucoup qui vivent en Algérie en même temps, qui vivent au Niger en même temps, qui vivent au Mali en même temps. Parce que c'est vrai qu'il faut vivre, mais il y a un problème d'état civil.
Le musicien Diassibo Tchombiano du Niger. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Joe Gill. Au micro, Claire Moragibourg. Nous nous quittons en musique avec Dias et son Djanjama. Rendez-vous demain 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Sibrina kwale moko pomiana kenkena de Talare na kwale moko pomiana kenkena da Yesibrina kwale moko pomiana kenkena de
Tu sens où l'entame poilie, gagne à mort. Yangamopoli, Yangama, Yensiga, Yangamopoli. Yensiga, Yangamopoli, Yangama, Yensiga, Yangamopoli. Yensiga, Yangamopoli, Yangama, Yensiga, Yangamopoli.